Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Eh ben bonjour aux auditeurs de Radio Galère, vous êtes bien en 2014 et vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille. C'est la 9e du genre et aujourd'hui avec Mathieu et à l'approche des élections européennes, nous allons consacrer la totalité de l'émission sur la thématique de l'Europe, sachant que je précise, Attaque n'est pas un parti et que si elle exprime ses positions et ses propositions, elle n'appelle pas à voter pour telle ou telle liste, chacun étant libre de se déterminer en fonction de sa sensibilité. Alors Mathieu, bonjour d'abord et on commence alors par quoi ?
Eh ben bonjour Hervé, alors écoute, moi je pense qu'il faut commencer par prendre une origine. Alors on va parler du moment de l'éclatement de la crise, je pense que c'est important, qui est la dernière crise en tout cas qui a débuté en 2007, hein, je le rappelle, c'était la crise des subprimes, je crois, et moi je pense qu'il est important de rappeler qu'il s'agissait d'une crise qui a commencé dans la finance privée et qui s'est transformée en une crise de la finance publique. Et ça, il faut absolument le rappeler parce que souvent on l'oublie, c'est-à-dire qu'il y a une socialisation de cette crise et ça, on oublie tout le temps de le rappeler. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? C'est que les gouvernements européens et la Troïka depuis l'éclatement de cette crise, alors ce qu'on appelle la Troïka, c'est la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, eh bien ils mettent en œuvre des coupes budgétaires dans les programmes sociaux, c'est ce qu'on appelle l'austérité, et des politiques au service des multinationales et des investisseurs privés, c'est ce qu'on appelle la compétitivité. Mais ces mesures suscitent de fortes résistances sociales dans de nombreux pays européens.
Et puis bien sûr, le rouleau compresseur des mesures d'austérité et de compétitivité est placé sous le signe de Tina. Tina, c'est le surnom de Margaret Thatcher. There is no alternative, il n'y a pas d'alternative. Et ainsi, partout en Europe, les gouvernements issus de la droite ou de la gauche appliquent le même programme, inévitablement présenté comme douloureux mais nécessaire. Le dogme de l'austérité et de la compétitivité présente pourtant des résultats catastrophiques. Une aggravation du chômage, de la crise économique, des tensions sociales et un retour en force de l'extrême droite.
Alors que pourtant, des alternatives existent. Des mouvements sociaux se lèvent dans les pays les plus touchés par la crise. Ils contestent les privatisations, les reculs sociaux, la mise en pièces de la société et de la nature. Ces luttes, qui tentent de se coordonner au plan européen, se multiplient et dessinent d'autres projets de société, mettant les besoins écologiques et sociaux de tous avant les profits d'une minorité.
Donc on vous propose dans cette émission une revue des enjeux des politiques menées en Europe, ainsi que des luttes et des alternatives qui s'y développent. Nous en sommes persuadés, à Attaque, le mouvement de résistance à l'offensive néolibérale en cours en Europe, malgré les difficultés qu'il rencontre, peut rassembler et peut inverser la tendance.
Et on commence par la compétitivité qui est devenue l'unique horizon des politiques publiques pour les partis de droite ou sociaux-démocrates. Elle promettrait, soi-disant, des lendemains meilleurs en stimulant la croissance économique et l'emploi. Son principe est simple. Dans un contexte de libre circulation des capitaux, les économies européennes sont en concurrence pour attirer investisseurs et entreprises. Pour maintenir un niveau d'emploi et de croissance élevé, les gouvernements n'auraient donc pour seule alternative que de se plier au bon vouloir des marchés. Fiscalité aux petits soins, normes environnementales au rabais, droits sociaux à la baisse, privatisation. Tous ceux-ci sont des faveurs qui ont un coût pour les victimes de ce dumping social et environnemental, mais aussi pour les finances publiques.
Et bien sûr, il ne serait pas compétitif de faire payer la facture aux employeurs ou aux plus riches, qui sont de potentiels investisseurs. Ce sont donc les couches moyennes et populaires qui sont mises à contribution à travers l'augmentation des taxes sur la consommation, comme la TVA. De telles mesures se sont multipliées dans les pays du sud de l'Europe. Ainsi, en Grèce, depuis 4 ans, le pouvoir d'achat des salaires a baissé de 37%. Les conventions collectives qui garantissent les droits des travailleurs ont tout simplement été suspendues en 2011. Au Portugal, le nombre de salariés couverts par des conventions collectives est passé de 1,5 million en 2010 à 300 000 en 2012. Et en Espagne, le niveau moyen des salaires est maintenant inférieur d'un tiers à celui de la zone euro. Et le gouvernement s'en félicite car cela dope les exportations.
Oui, et en Europe du Nord, de telles politiques constituent un modèle pour la plupart des gouvernements. En Allemagne, le modèle basé sur la compression des salaires pour doper les exportations a fait exploser la pauvreté dans une partie de la société et oblige aujourd'hui à établir un salaire minimum. Avec la loi sur la sécurisation de l'emploi de 2013, la France s'est engagée dans la voie des accords compétitivité-emploi qui autorisent les entreprises à diminuer les salaires. Le MEDEF, qui réclame la baisse des charges sociales et fiscales, a été entendu, et à nouveau avec le pacte de responsabilité.
Et compétitivité oblige, on taxe moins les facteurs dits mobiles, c'est-à-dire le capital, les revenus les plus élevés, et davantage les classes populaires et moyennes. En Grèce, cette logique est poussée à l'extrême. Avec la baisse de la taxe sur les bénéfices des entreprises, de 25% à 10%, et la hausse des impôts sur la consommation, les employés et retraités supportent 55,5% de la charge fiscale, contre seulement 28% pour les entreprises. C'est un véritable pillage fiscal. Et quand elles ne bénéficient pas d'impôts très bas, les multinationales comme Amazon et Google utilisent les différentiels de fiscalité selon les pays et les paradis fiscaux pour ne payer quasiment pas d'impôts. Par contre, les contribuables payent pour renflouer les banques. En Irlande, 40% du PIB a été injecté dans le secteur bancaire par les contribuables.
La compétitivité n'est cependant pas qu'une affaire fiscale ou sociale. En Grèce et en Roumanie, des mines d'or ont rouvert malgré les conséquences dramatiques pour l'environnement, avec notamment le déversement de cyanure en quantité. Partout en Europe, les lobbies de l'industrie extractive se mobilisent pour faire autoriser l'extraction de gaz de schiste, malgré les dangers notoires associés à cette pratique. La Pologne, fer de lance de l'exploitation du gaz de schiste en Europe, en subit aujourd'hui les conséquences. Le désir d'attirer les grands investisseurs à tout prix conduit les décideurs européens, nationaux et locaux, à multiplier les privatisations avec pour conséquence des tarifs qui explosent pour les consommateurs. Les multinationales françaises ont été invitées par le président de la République grecque à participer à cette grande braderie. Suez, candidate au rachat du service des eaux à Salonique, ou Vinci, qui a racheté les 10 principaux aéroports du Portugal.
Et la séduction des investisseurs passe aussi par de grands projets inutiles, comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou la ligne de chemin de fer à grande vitesse, la LGV Lyon-Turin. Des projets au plus grand bénéfice du privé et dont l'utilité sociale est négligeable par rapport aux coûts économiques et environnementaux. L'université et la recherche n'y échappent pas. Elles doivent, elles aussi, se soumettre au dogme de la compétitivité, entrer dans des logiques de concurrence et trouver des financements privés. La recherche est entièrement tournée vers des rentabilités de court terme et les chercheurs de plus en plus soumis à cette logique de concurrence.
La mobilisation citoyenne a permis de rejeter l'accord commercial anti-contrefaçon, qui est mieux connu sous le sigle ACTA, qui aurait signifié des reculs considérables pour le respect de la vie privée, les droits des citoyens sur Internet, pour l'accès aux médicaments génériques ou encore l'utilisation de semences paysannes. Avec l'ouverture de la négociation d'un accord transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis, ce sont les normes sociales, environnementales et sanitaires qui sont attaquées, parce que présentées comme un obstacle à la compétitivité. Les entreprises pourraient attaquer les États devant des tribunaux arbitraux privés. Une mobilisation citoyenne des deux côtés de l'Atlantique s'organise pour faire échec à ce projet.
Et on va conclure provisoirement sur ce sujet de la compétitivité en soulignant que ces politiques de compétitivité sont doublement mortifères. D'abord, elles instituent la concurrence entre les peuples et plongent les nations dans une guerre économique qui détruit les modèles sociaux issus de longs combats, mais aussi elles contribuent ainsi à la montée des courants nationalistes et xénophobes.
Alors, on va évoquer maintenant l'austérité, qui est en quelque sorte le revers de la compétitivité. Une manière de socialiser le coût des politiques de compétitivité qui garantissent, elles, les profits privés. Le principe est le suivant. Avec la crise financière, c'est-à-dire le renflouement des banques, et la crise économique, c'est-à-dire la récession, les gouvernements ont accumulé des dettes publiques importantes qui contraignent les budgets. Impossible pour eux de faire marcher la planche à billets puisque la Banque Centrale Européenne s'y oppose, ou d'augmenter les impôts sur les plus riches ou sur les entreprises, compétitivité oblige. Et il est délicat de se contenter d'accroître la pression fiscale sur les classes moyennes et populaires.
Et bien sûr, la solution choisie par les tenants de l'austérité pour équilibrer les dépenses et les recettes consiste donc à sabrer dans les dépenses publiques. Alors cela passe par des coupes dans les effectifs et les salaires de la fonction publique, et donc dans les services publics, ainsi que dans la protection sociale, chômage, santé, logement, retraite. En Grèce, au Portugal, en Espagne, on ferme des écoles et on licencie des enseignants. On ferme ou on privatise des hôpitaux. On brade les services publics au profit de multinationales et d'intérêts privés locaux. La précarité de l'emploi et des conditions de vie devient la norme. Les retraites sont sacrifiées, les jeunes sont condamnés à l'émigration. La baisse du niveau de vie est radicale en à peine 2 ou 3 ans. Le renoncement à relever le défi écologique est cyniquement justifié par la crise économique et sociale.
Et les pays du nord de l'Europe ne sont pas en reste. En France, François Hollande a annoncé un plan d'économie de 70 milliards d'euros sur l'ensemble de son quinquennat.
En 2010, le gouvernement britannique a mis en place un plan d'austérité sur 5 ans à hauteur de 90 milliards d'euros de coupes, soit 14% des dépenses. Avec au programme suppression d'allocations sociales, relèvement à 66 ans de l'âge de départ à la retraite, privatisation partielle ou totale dans des domaines tels que la santé, la police, les services sociaux et les services publics locaux.
Et pourtant, cette politique contient son propre échec. La récession qu'elle organise accroît les déficits et la dette publique dans toute l'Europe. Cet échec justifie de nouvelles coupes qui aggravent la crise. L'austérité est un programme sans fin de démantèlement du droit du travail et de la protection sociale, ainsi que de privatisation des services publics. Ces résultats sont catastrophiques à tous égards. Les taux de chômage atteignent des sommets supérieurs à ceux atteints lors de la crise des années 30. Près de 30% en Grèce et au Portugal. Celui des jeunes est vertigineux. 63% en Grèce, 57% en Espagne. Cette politique brutale accroît les inégalités. La justice sociale, l'aspiration démocratique, l'émancipation humaine deviennent des obstacles qu'il faut réduire. En Grèce, tout particulièrement, la catastrophe sociale est devenue une crise humanitaire. Pourtant, l'ensemble des États suivent aveuglément cette pente.
Alors, on verra en deuxième partie de l'émission l'édifice antidémocratique que constitue cette Europe avec comme clé de voûte la finance. Mais aussi que de nombreuses luttes sociales et mobilisations font leur apparition dans lesquelles Attaque prend toute sa place, bien entendu. Et en attendant, on s'écoute une chanson de Boris Vian qui s'appelle « Le petit commerce ».
J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignes en corzo, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet. J'ai rempaillé des chaises, réparé des bidets. Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé. J'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé. Je roule en Cadillac dans les rues de Paris. Depuis que j'ai compris la vie, j'ai un petit hôtel, trois domestiques et un chauffeur. Et les flics me saluent comme un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs. Des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Il y a toujours amateurs pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canons à vendre. Avec votre ferraille, on forge ces engins qui foutront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à tous les ouvriers et chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons. On touche l'assurance et les allocations. Ça n'a pas d'importance, car lorsqu'ils seront grands, ils iront en cadence crever pour quelques francs. Je vendais des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières, mais moi maintenant je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant, et seul dans la vie, je vais sans souci. Au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger, je danse la carmagnole, y a plus personne sur le pavé. Canon en solde.
Eh bien, nous voilà de retour pour la deuxième partie de votre émission La Gueule Ouverte. laquelle, je le rappelle pour les auditeurs qui nous rejoindraient seulement maintenant, est aujourd'hui consacrée à l'Europe puisque nous sommes à l'approche des élections européennes. Nous allons nous attacher avec Mathieu à vous montrer l'édifice antidémocratique que constitue cette Europe, avec comme clé de voûte la finance, mais aussi que de nombreuses luttes sociales et mobilisations font leur apparition, dans lesquelles l'attaque prend toute sa place. Alors Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? La construction européenne est-elle antidémocratique?
Eh bien Hervé, pour ma part, je pense qu'il suffit de faire les quelques constats suivants pour se rendre compte à quel point les institutions européennes sont antidémocratiques. Les politiques d'austérité et de compétitivité, censées répondre à la crise, ne font que l'empirer. L'austérité crée la récession et détruit les économies européennes. Les politiques de compétitivité, quant à elles, mettent en péril le contrat social et n'ont jamais, je dis bien jamais, tenu leurs promesses en matière d'emploi. Les profits explosent et la précarité généralise. Où est la démocratie dans tout cela?
C'est bien vrai. Et non seulement ces politiques sont des dangers pour nos sociétés, mais elles apparaissent de plus en plus comme la négation même du principe de démocratie. En témoignent les mécanismes institutionnels antidémocratiques qui contribuent à l'application du dogme austérité-compétitivité. On a d'abord la Troïka, qui est constituée de trois instances non élues et qui impose des politiques désastreuses dans les pays d'Europe surendettés. Au nom de la crise de la dette publique, elle agit comme un pompier pyromane. Les parlements nationaux enregistrent sans débat. La crise de la dette publique en Europe a été aggravée par la politique irresponsable de la Banque centrale, qui a poursuivi une politique monétaire en faveur des intérêts des banques privées. Au final, la spéculation par les banques sur les dettes souveraines leur a permis de dégager des profits considérables. Les mécanismes de contrôle des budgets nationaux, définis par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, ce qu'on appelle le TSCG, et plusieurs paquets de directives européennes. Le TSCG soumet les budgets nationaux à un strict contrôle par la Commission européenne avant même l'examen devant les parlements nationaux, qui deviennent de ce fait de simples chambres d'enregistrement. Pire, des sanctions automatiques sont prévues contre les États en cas de non-respect du traité.
Alors la démocratie est-elle devenue un vain mot? La question se pose. Au mécanisme institutionnel créé pour réduire les choix des élus, de l'indépendance de la BCE, en passant par la mise en place de la Troïka, du semestre européen et du TSCG dont vient de parler Hervé, à l'impératif permanent de compétitivité qui remet en cause la place des syndicats, s'ajoute également le cynisme de dirigeants ayant un programme de changement qui, une fois élus, conforte la mainmise des plus riches. À titre d'exemple, et un exemple éloquent, François Hollande s'était engagé pendant la campagne présidentielle à renégocier ce traité. Sitôt élu, le Parlement a pourtant ratifié un traité non modifié. Rappelons-nous, c'était en contrepartie d'une promesse de croissance.
Et une des causes profondes de cette fuite en avant, faite de reculs sociaux, démocratiques et de destruction de la nature, est avant tout le choix des dirigeants européens de ne pas s'opposer à la finance. Le pouvoir économique considérable dont jouissent les multinationales et les moyens démesurés qu'elles emploient pour influencer la décision publique contribuent indéniablement à faire pencher la balance en leur faveur.
Mais c'est aussi la démission des élus qui contribue à un rapport de force favorable aux intérêts privés. En adhérant au dogme de l'austérité et de la compétitivité, ils deviennent des managers du territoire, des gestionnaires dont le rôle consiste à attirer entreprises et investissements privés tout en comprimant les dépenses. Dès lors, sont-ils encore les représentants de leurs électeurs ?
Et ce renoncement n'est pourtant pas inéluctable, loin de là. Des propositions existent pour mettre au pas la finance et dégager des marges de manœuvre budgétaires pour promouvoir des politiques sociales et écologiques. De nombreux mouvements se sont développés partout en Europe. Ils portent ces alternatives pleines d'espoir.
Oui, tu as bien raison Hervé. Et le plus emblématique des mouvements nés de la contestation des politiques austéritaires en Europe est le mouvement dit des places. Celui-ci a débuté en Espagne le 15 mai 2011. Des dizaines de milliers d'étudiants, de chômeurs et chômeuses, d'actifs et de citoyens et de citoyennes de tous âges ont exprimé leur colère. Ils appelaient à une vraie démocratie. Inspirés par les révolutions des peuples arabes, ils ont décidé de camper sur la place centrale de Madrid. Cette initiative faisait suite à une manifestation historique au Portugal, à l'initiative de jeunes précaires. Elle a aussi essaimé en Grèce, où un mouvement des indignés s'est installé sur la place Syntagma, je crois qu'on dit comme ça, en face du Parlement grec.
Et ces mobilisations ont contribué à mettre en mouvement, contre la résignation ambiante, des centaines de milliers de personnes. Elles ont contribué à préparer le terrain pour des victoires importantes contre les expulsions locatives ou contre le projet de privatisation des hôpitaux dans la région de Madrid, abandonné en février 2014 après plus d'un an de mobilisation.
Alors en Grèce, le mouvement des places a initié de vastes mobilisations contre la privatisation de l'eau, la réouverture des mines d'or ou encore des initiatives de solidarité locale comme celle des dispensaires sociaux autogérés. Les assemblées de quartier ont permis un renouveau de la gauche, qui s'est aussi traduit par les succès électoraux de Syriza, qui représente le parti de la gauche grecque. Ce mouvement a donc à la fois obtenu des victoires concrètes et contribué à renouveler le paysage de la contestation sociale au plan syndical et politique.
Et ce n'est pas tout. Le mouvement des places a aussi contribué, en lien avec les centrales syndicales des pays du sud de l'Europe, à l'organisation d'une grève générale simultanée en Espagne et au Portugal le 14 novembre 2012, avec des manifestations contre l'austérité organisé le même jour dans la plupart des pays européens.
En Italie, en 2010, la mobilisation des comités citoyens pour l'eau publique a permis de mettre un coup d'arrêt à la privatisation de l'eau. Cette mobilisation populaire a permis de rassembler les signatures nécessaires pour l'organisation d'un référendum abrogatif organisé en 2011. Malgré la désinformation, la privatisation a été massivement rejetée avec une participation record, validant ainsi le slogan des comités citoyens « Ça s'écrit O, mais ça se lit démocratie ».
Et en France, c'est le projet de nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes qui cristallise la colère citoyenne contre un modèle de société où le développement économique se fait contre la nature et contre les peuples. La France a également connu, à partir de 2011, un vaste mouvement populaire contre l'exploitation des gaz de schiste, qui a abouti à la mise en place d'un moratoire sur l'exploitation de ces hydrocarbures non conventionnels. À ce mouvement fait écho la forte mobilisation anti-gaz de schiste en Pologne, où paysans et citoyens ont provisoirement empêché la multinationale états-unienne Chevron d'exploiter le sous-sol.
L'Europe de l'Est et les Balkans ont également connu une séquence de mobilisation historique avec des manifestations très importantes en Roumanie, en Bulgarie et plus récemment en Bosnie et en Slovénie.
Et en Allemagne, devant la Banque Centrale Européenne, les mobilisations Blockupy Frankfurt, organisées depuis 2012, dénoncent l'Europe de la finance. En Grande-Bretagne, la Coalition of Resistance, qui rassemble syndicats, mouvements citoyens et les No Cuts, est à l'origine de manifestations sans précédent depuis des décennies contre le plan d'austérité drastique du gouvernement Cameron.
Alors ces mouvements discutent ensemble et se rencontrent. Des réseaux de mobilisation européens se créent, par exemple sur la santé et sur le logement. Si une riposte générale n'est pas aujourd'hui réalisée, ces mouvements constituent néanmoins des embryons nécessaires pour dessiner des alternatives nationales et aussi européennes. Alors allons-y, mobilisons-nous.
Dans de nombreux pays, les citoyens s'organisent et se mobilisent. Au plan local ou national, articulés ou non au plan européen, ces mobilisations contribuent à des victoires contre les politiques néolibérales et ouvrent la voie à des ruptures politiques. Celles-ci impliquent l'émergence de forces politiques progressistes, à laquelle les mouvements sociaux contribuent tout en gardant une autonomie exigeante.
Attaque soutient les mouvements qui agissent contre les diktats de la finance, de l'austérité, de la compétitivité, contre cette Union européenne des oligarchies, construite par et pour elle. La coordination entre ces mouvements au plan européen doit jouer un rôle important. Attaque France œuvre, avec le réseau des Attaques d'Europe, à construire un espace de réflexion et d'action pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent faire avancer un projet démocratique et la construction d'un avenir commun.
Après l'Université d'été européenne des mouvements sociaux qui aura lieu à Paris du 19 au 23 août de cette année, qui sera un lieu d'échange, de débat et de coordination pour les mouvements européens, Attaque sera à Francfort à l'automne 2014 lors des importantes mobilisations qui seront organisées à l'occasion du déménagement de la Banque Centrale Européenne et qui seront un autre moment de coordination des luttes, l'expression d'une résistance globale et du passage à l'offensive des mouvements sociaux.
Alors pour finir l'émission et pour ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet, je vous invite à la lecture du livre « Que faire de l'Europe ? Désobéir pour reconstruire » qui est disponible aux éditions « Les liens qui libèrent ». Alors à partir d'une analyse fine des mouvements sociaux et des rapports de force, cet ouvrage, publié par Attaque et la Fondation Copernic, explore une stratégie de la ligne de crête en équilibre entre lutte nationale et européenne, entre rupture par le haut et changement par le bas, affirmant qu'il faudra désobéir à l'Union européenne pour redonner sa chance à l'Europe. Alors le bouquin est en vente auprès de tout militant d'Attaque que vous pourriez croiser ou dans toute bonne librairie.
Ah ben, merci mon bon Mathieu, merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis jusque-là de nous avoir supportés. Avant de passer à la dernière partie de l'émission, on va s'écouter un morceau de Jacques Brel qui est chanté par Noir Désir et ça s'appelle « Ces gens-là ».
D'abord, il y a les nez, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez. lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses dix doigts, et lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, ouais, là comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, et qu'à l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas, on prie. Puis à l'autre, des carottes dans les cheveux, qu'a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qu'a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout, faut pas jouer les riches. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, on ne vit pas. Mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père, qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands. Et ça fait des grands. Puis il y a la toute vieille, qu'on finit pas de vibrer. On attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur, on ne cause pas. Fenêtre avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même un peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça, qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à écorcher les chats, j'ai jamais dû dire. Ouais, alors il y a longtemps, bien j'ai oublié. Oui, ça, c'est pas bon. Enfin, ils veulent pas. Enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que ces gens-là, monsieur, ils s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Faut que je we'll be right back.
On arrive maintenant à la dernière partie de l'émission avec l'agenda d'Attaque Marseille en mai.
Alors, qu'est-ce que nous a concocté Attaque ce mois-ci, Hervé ?
Eh bien justement, nous organisons mercredi 14 mai un meeting au théâtre Mazenod, au 88 rue d'Aubagne, en plein centre de Marseille. Alors c'est un meeting sur l'Europe, dont le thème sera précisément « Que faire de l'Europe ?». Il y aura plusieurs intervenants, notamment un des porte-parole d'Attaque France, Thomas Coutreau, des représentants d'Attaque Allemagne, d'Attaque Portugal, et également Geneviève Savigny, une des animatrices de la Confédération Paysanne en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et pour pouvoir voter en toute connaissance de cause, alors Que faire de l'Europe ? Ça a lieu au Théâtre Mazenod à partir de 18h jusqu'à 22h, et il y aura même une buvette et de quoi manger, avec en plus un beau stand d'Attaque qui proposera ses publications. Alors n'oubliez pas, c'est le mercredi 14 mai à 18h au Théâtre Mazenod, Que faire de l'Europe ? C'est au métro Notre-Dame-du-Mont, et pour les fans de l'automobile, il y a même un parking à proximité.
Et c'est tout, non ?
Ben non, c'est pas tout. Il y a également la 22e édition du festival antiraciste Tout Couleur, le vendredi 23 mai sur le campus de Lumigny, de 16h à 2h du matin. 9 heures de concert, un village associatif avec des boissons artisanales et locales dans nos gobelets. Car même si on est fan du curry de poulet ou du chocolat, il ne faut pas oublier que consommer local, c'est agir responsable. Également des conférences, par exemple le Grand Marché Transatlantique avec Frédéric Vial d'Attaque France, Changer le monde à notre échelle par Alliance Provence, le Printemps des droits humains avec Amnesty, Lutte indigène au Mexique avec le Café Rebelle et Zapatiste Mutwitz, et tout un tas d'autres choses. Donc je rappelle que c'est sur le campus de Lumigny, le vendredi 23 mai à partir de 16h. C'est la 22e édition du festival Tout Couleur, et en plus c'est gratuit.
Alors il faut quand même qu'on vous dise que mon fils vient de débarquer dans le studio. Alors viens là, mon pauvre petit bébé.
Il est pressé d'aller au festival Tout Couleur, je crois.
La catastrophe.
Ou alors peut-être de casser une petite croûte.
Allez, dis bonjour aux auditeurs de Radio Galère. Et sinon pour l'agenda, on s'arrête là, Hervé, ou pas ?
On arrête là. On va s'occuper d'Alel. Et puis l'agenda, c'est fini pour ce mois-ci. Alors on va vous faire écouter une chanson de Massilia. Ça s'appelle Des Métallos, et on la dédie à Adèle, qui, j'espère, trouvera du boulot.
Et s'il faut choisir les héros, alors choisissons les métallos. Il faut des métallos, des métallos. Il faut des métallos, moins de pédalos. On veut des métallos, des métallos. Il faut des métallos, moins de pédalos. Cette chanson est tout entière à la gloire des métallos qui fabriquent les cargos, qu'ils soient dans les hauts fourneaux. Ils portent le bleu de Chine, sont généralement costauds. Il y en avait plein la ville quand il y avait du boulot. Maintenant que nos usines n'existent plus qu'en photo, tous les jeunes se débinent, nous font l'arbin à casino. Hey, des métallos, des métallos. Il faut des métallos, moins de pédalos. Enfin, des métallos, des métallos. On veut des métallos, moins de pédalos. Dédicace à la Slota, c'est une cité au bord de l'eau. Il y avait le chantier, on y construisait des bateaux. Plus d'un millier d'ouvriers, jour et nuit, des coups de marteau et des gerbes, des pincelles qui faisaient rêver les minots. Oui, c'est un dur métier, c'est un fichu boulot. La sirène le matin, ah putain qu'elle sonne honnêteau. On sait bien que le travail, ça sera jamais rigolo, que ce sont toujours les mêmes qui se gavent sur ton dos. C'est tout pour les patrons, jamais pour les prolos. Mais tout le monde se sentait fier quand on lançait le bateau. Oui, des métallos, des métallos. Il faut des métallos, moins de pédalos. On veut des métallos, des métallos. Il faut des métallos, moins de pédalos. Et voilà, un beau matin, les rats filent avec le magot. On explique sur les ondes qu'il n'y aura plus de bateaux, qu'on les fabrique moins cher à Singapour, à Bornéo, qu'il aurait fallu les faire ou plus petits ou plus gros. Les récalcitrants, on les soigne à la lacrymo. On appâte les autres avec un peu de Nemo. L'avenir est à la plage, ici ce sera Rio. Il y aura des avantages, on pourra ouvrir un resto. 6 mois après le carnage, la ville se réveille au chaos. Les crapules immobilières comptent tranquillement les lingots. Et des métallos, des métallos. Il faut des métallos, moins de pédalos. Enfin, des métallos, des métallos. On veut des métallos, moins de pédalos.
Quand il fait à ma vie, quand il fait dans son dos, c'était un coin tranquille, un paradis au bord de l'eau.
Tout
paraît immobile, plus de rue de bateau. Quelques ombres de fil, la peste est-elle là de nouveau.
Il faut des métallos, des métallos.
des métallos, il faut des métallos, moins de pédalos, on veut des métallos, enfin des métallos, moins de pédalos.
À Toulon, la scène à Marseille, c'est aussi le même topo. Dans la foire européenne, on tient le stand des rigolos. Il paraît que notre richesse, c'est avant tout la météo. Pensez de mai à octobre, on se balade tous en maillot. Ça attire les ingénieurs, ils y installeront leur labo. Ça, c'est des consommateurs, ça, c'est déjà mieux comme il faut. On va leur faire des boutiques et des ciné et des expos. À la place des fabriques, avouez que ça sera plus beau.
Non, mais non, seront plagistes ou iront bosser chez McDo. Si ces métiers, les actrices dans le Nord, il y a du boulot. L'été, ils nous reviendront dans le long fil d'auto pour dépenser au pays ce qu'ils auront gagné là-haut. Hey,
des métallos,
il faut
des métallos, moins de pédalos.
On veut des métallos,
quand il fait à ma ville, quand il fait dans son dos. C'était un coin tranquille, un paradis au bord de l'eau.
Raconte-leur, monsieur.
Tout paraît immobile, plus de grues de bateaux.
Je veux fermer la flotte.
La peste est
fermée.
Il faut
des métallos, des métallos.
Il faut
des métallos, moins de pédalos.
On veut
des métallos, des métallos.
Il faut
des métallos, moins de pédalos.
On veut
des métallos.
Et pour finir en beauté votre émission, voici la traditionnelle devinette de l'émission La Gueule Ouverte. Alors Hervé, qui a dit, ouvrez les guillemets, je suis partagé entre deux ambitions, celle de la construction de l'Europe et celle de la justice sociale.
Ah ben écoute, moi je vais dire sans hésiter que c'est Renaud Muselier, la tête de liste aux élections européennes pour la région Sud-Est. Tu connais la chanson Mathieu, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Alors à Marseille, dans la ville du recyclage, le retour de Muselier, ex-ministre, ex-député, ex-maire d'arrondissement, ex-premier adjoint, ça rappelle ces vieilles stars qui, après avoir fait leurs adieux à la scène, n'ont de cesse de vouloir y remonter. Tout le monde ne naît pas fils à papa et gavé de fric dès la naissance. Alors c'est lui, c'est Nono, le constructeur de l'Europe et de la justice sociale.
Eh bien Hervé, pas du tout. Il s'agit, tenez-vous bien chers auditeurs, de François Mitterrand en 1983. Il est cité par Jacques Attali dans son livre « Verbatim ». Car voyez-vous, mes amis, en ce moment, on nous bassine avec l'anniversaire des 2 ans du quinquennat de François Hollande, mais là, c'est d'un autre anniversaire qu'il s'agit et qu'on a oublié de célébrer. Il y a 30 ans, en mars 1983, la gauche basculait à droite. C'est l'histoire d'un renoncement, d'une capitulation. En 10 jours, se déroule sous nos yeux un thriller politique. Le 13 mars 1983, François Mitterrand souhaite une autre politique. Le 23 mars, c'est plié. Ce sera le tournant de la rigueur et l'Europe de l'austérité. S'ouvre alors la parenthèse libérale dans laquelle nous sommes encore coincés aujourd'hui.
Eh ben, c'est consternant, mais c'est édifiant. Alors après cette magistrale leçon de politique, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. Cette émission sera rediffusée le mardi 20 mai de 14h à 14h30 pour ceux qui en redemandent. Et notre prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 12 juin à 15h. Alors au mois prochain. Et pour nous contacter, une seule adresse, accueil.attaque@attaque.org. Ah ben salut Mathieu, salut Adèle.
Salut Hervé.
Et n'oubliez pas, en mai, on fait ce qui nous plaît.
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.